Bonjour. Les gilets jaunes blessés pendant les manifestations ont-ils fait l'objet d'un recensement de l'APHP, Assistance publique hôpitaux de Paris? C'est ce qu'affirme ce matin le Canard enchaîné. Le ministère de l'Intérieur précise qu'il n'a pas accès à ce fichier créé après les attentats de 2015. Mais ce midi, Daniel Messager, nouveau communiqué de l'APHP.
Oui, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris reconnaît l'utilisation inappropriée de données médicales sur une dizaine de cas et une enquête va être ouverte.
Mieux accueillir les réfugiés, autrement dit leur assurer un logement décent. Les maires de plusieurs grandes villes qui ne se sentent pas suffisamment soutenus par l'État appellent à se mettre tous ensemble pour mieux assumer l'accueil des demandeurs d'asile. Pas d'avortement pour les femmes violées pendant un conflit. Les États-Unis et la Russie s'opposent à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur les droits des victimes de violences sexuelles. L'ambassadeur de France et les associations font état de leur consternation, comme Céline Bardet, présidente de l'ONG We Are Not Weapons of War.
C'est gravissime. Moi, je n'arrive même pas à réaliser qu'on ait deux États qui amputent totalement le droit de base des victimes, et donc là, en l'occurrence, des femmes.
Des saisies de drogue de plus en plus nombreuses et surtout des produits de plus en plus forts. Le bilan 2018 des services de lutte contre les trafics de stupéfiants est inquiétant. On peut y vérifier une dangerosité accrue de ces produits, notamment du cannabis dont la teneur en THC, la substance psychoactive, est de plus en plus élevée. Invité de ce journal, le docteur Benyamina, psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Dans ce journal également, la mort de Dick Rivers, célèbre rocker des années 60. Il était le leader à l'époque des chats sauvages.
C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue n'importe où.
Dick Rivers, il avait aujourd'hui même 74 ans. La page cinéma du mercredi avec Corinne Pellissier à l'affiche cette semaine, notamment L'Adieu à la nuit, 8e film d'André Téchiné avec Catherine Deneuve. Et puis Notre-Dame en passe d'être bâchée, il faut faire vite. Des averses sont annoncées cet après-midi. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Des averses orageuses quasiment partout d'ailleurs.
Oui, alors ce n'est pas à Paris qu'on en aura le plus. Elles sont plus nombreuses et plus soutenues sur l'Est avec des orages forts, de la grêle en fin de journée vers l'Alsace, beaucoup de vent, jusqu'à 80 à 100 km à l'heure dans l'Est, un cran au-dessus même ce soir et demain sur Haute-Loire, Loire, Rhône et Isère en vigilance orange, et puis c'est plus frais, 15 à 20 degrés le plus souvent.
Le bulletin complet bien sûr en fin de journal.
France Inter.
Des gilets jaunes blessés pendant les manifestations ont-ils été fichés, en tout cas recensés par les hôpitaux parisiens, c'est ce qu'affirme ce matin le Canard enchaîné, que ces personnes auraient été recensées dans un système d'information pour le suivi des victimes, le fichier SIVIC, mis en place après les attentats de 2015 pour faciliter l'identification des victimes. Le ministère de l'Intérieur assure ce matin n'y avoir pas accès. Tout était parti vendredi d'une intervention du Conseil de l'Ordre des médecins, Daniel Messager. Et ce midi, l'APHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, reconnaît donc une utilisation inappropriée de ces fichiers.
Effectivement, utilisation inappropriée, reconnaît en fin de matinée l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Des investigations ont été menées entre hier et aujourd'hui à la suite de remontées d'informations. Et François Crémieux, le directeur général adjoint de l'APHP, vient de nous le confirmer.
Il y a eu des utilisations inappropriées du dispositif civique à l'assistance publique le samedi 20 avril dans un contexte particulier qui est celui de l'utilisation de ce dispositif au cours des différents événements depuis le début de l'année quand il y a eu des explosions, des incendies, des manifestations. Et donc effectivement, dans certains cas, une grosse dizaine, la case correspondant aux commentaires associés à chacune des fiches a été remplie de manière inappropriée avec des informations de nature médicale. Ces informations n'auraient pas dû apparaître. Les consignes de l'assistance publique étaient ambiguës. Très clairement, le fichier ou le dispositif civique n'est pas prévu pour cela. On a d'autres outils pour le faire, notamment les dossiers médicaux des patients. Et donc, effectivement, ces informations-là n'auraient pas dû apparaître dans le dispositif civique.
Le dispositif sera donc revu pour que n'apparaissent pas des informations médicales. Une inspection diligentée par l'Agence régionale de santé et les hôpitaux de Paris va être menée, car l'émoi est réel. Le secret professionnel a-t-il été violé? C'est la raison pour laquelle le Conseil de l'Ordre des médecins avait été alerté par certains médecins. La CNIL nous a informé que le dossier avait bien été enregistré ce matin, mais on ignore encore la durée des investigations. Alors ce dispositif pour aider à identifier les victimes lors d'afflux, comme ça avait été le cas pour les attentats de 2015, 2015 et où des familles effectivement avaient eu du mal à retrouver leurs proches, eh bien il a montré là des failles pour des événements où la gravité n'est pas identique.
Et le ministère de la Santé précise également, comme le dit la place Beauvau, que ce fichier n'est pas consultable par le ministère de l'Intérieur. Faute avouée n'est pas à moitié pardonnée. Pour Nathalie Loiseau, la tête de liste La République En Marche aux Européennes, la polémique continue. Sa présence sur une liste étudiante d'extrême droite à Sciences Po en 1984 lui vaut une avalanche de critiques. Elle était hier, selon le candidat du PC Yann Brossat, la Richard Virenque de la politique. La voilà ce matin, selon Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, comparée à Jawad Ben Daoud, le logeur des djihadistes du 13 novembre, qui disait avoir seulement voulu rendre service. Pour l'intéresser, toutes ces polémiques sont parties du journal Minute et visent en fait Emmanuel Macron. Et puis dans les petites phrases de la matinée, on peut relever la polémique à gauche entre la France insoumise et le candidat PS Place Publique, Raphaël Glucksmann, lequel avait qualifié Jean-Luc Mélenchon de Thatcher de gauche. Sur France Inter, ce matin, le député Alexis Corbière lui répond en le jugeant trop Thatcher. Voilà, ça s'appelle une campagne électorale. Pour un accueil plus digne des réfugiés, les maires de plusieurs grandes villes de France, soutenus par les associations, appellent l'État à réagir face à des situations parfois dramatiques en termes de logement, notamment Paris, mais aussi Lille, Nantes, Toulouse, Grenoble ou bien Troyes, la ville de François Baroin, le président de l'Association des maires de France. Tous demandent au gouvernement de se mettre autour d'une table et de trouver ensemble des solutions. Yann Gallic.
Des maires confrontés à l'accueil chaotique des migrants dans leurs villes respectives avec parfois des campements sauvages et des riverains exaspérés. Ces élus locaux interpellent donc le ministre de l'Intérieur et celui du Logement. Il faut trouver des solutions durables pour les réfugiés, explique Anne Hidalgo, la maire de Paris. Mais cet accueil ne peut pas se faire sans l'aide de l'État.
Aujourd'hui, le sentiment que nous avons, nous les maires, c'est que nous sommes abandonnés, que lorsque le problème n'est pas visible, on ne le traite pas, qu'on ne le traite que dans l'urgence. C'est vraiment un problème qui va durer encore longtemps. J'ai besoin de l'État pour qu'on donne confiance à nos concitoyens, qu'on est capable de gérer de façon humanitaire un accueil si on s'en donne les moyens.
Actuellement en France, seul un demandeur d'asile sur deux est hébergé dans le dispositif national prévu par la loi. Il faudrait beaucoup plus de logements pour les migrants, selon Florent Guéguin. Il dirige la Fédération des acteurs de la solidarité qui regroupe plus de 800 associations.
Il y a un décalage inacceptable entre le nombre de demandeurs d'asile, 122 000 demandeurs d'asile en 2018, et le nombre de places effectivement disponibles, 86 000 places, ça c'était le chiffre en fin d'année 2018. Il faut un plan national d'accueil, il faut aussi assumer l'accueil de ces demandeurs d'asile comme d'autres pays l'ont fait.
Et les associations demandent au gouvernement de créer au moins 40 000 places d'hébergement supplémentaires d'ici la fin du quinquennat.
L'audience de la dernière chance pour Ascoval, la scierie de Saint-Saulve dans le Nord attend un repreneur depuis plus d'un an. Le tribunal de Strasbourg examine aujourd'hui les projets de reprise dont deux sont considérés comme très sérieux par le patron d'Ascoval qui se dit très confiant. Décision le 2 mai. Développer les véhicules électriques autonomes partout en France et pas seulement en milieu urbain. La ministre des Transports Elisabeth Borne lance 16 expérimentations tous azimuts dans le transport collectif ou individuel, le domaine du fret ou de la logistique, un programme à 200 millions d'euros, Maxime Deps.
Ouais, une réponse à la mobilité dans les campagnes pour la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui se défend de toute opération de communication.
C'est pas une lubie, un gadget, cette innovation, c'est vraiment pour pouvoir offrir des services de transport dans des territoires qui en sont aujourd'hui dépourvus.
Et parmi les projets mis en avant, une navette en Loire-Atlantique, notamment sur 7 km entre Nantes et Carquefou, sur une voie fermée aux autres véhicules. Tout sera fait en totale sécurité, promet bien sûr Anne-Marie Hydrac, ancienne présidente de la SNCF, en charge de superviser cet énorme chantier.
Les expérimentations que nous lançons sont pour certains cas dans des zones vraiment bien balisées, mais aussi dans un certain nombre d'endroits qui ne sont pas totalement balisés.
Et pour ces endroits où ces véhicules sans chauffeur auraient à cohabiter avec les autres, pas de panique, une personne à bord ou à distance pourra dans un premier temps reprendre les commandes. Jean-Louis Camus est président de la communauté des communes du cœur de Braine, entre Châtellerault et Châteauroux. Son territoire a été retenu pour une expérimentation dont il attend beaucoup.
Pour une fois, le monde rural s'inscrit dans le futur. L'objectif sera peut-être d'y avoir plusieurs véhicules qui rendront un service organisé et immédiat aux besoins de la population locale.
peut-être un clin d'œil involontaire. L'un des projets présentés ce matin a été baptisé ENA, ça ne s'invente pas, ENA, pour expérimentation de navettes autonomes. Mais promis, celui-ci d'ENA, Yves,
dit-on,
n'aura pas vocation à disparaître.
La loi d'orientation des mobilités déjà votée au Sénat et qui doit être adoptée cet état prévoit en tout cas d'autoriser les navettes autonomes dès 2020 sur l'ensemble du réseau routier. L'ambassadeur de France à l'ONU consterné par l'attitude des États-Unis sans les citer, François Delattre dénonce des menaces de veto agitées par des membres permanents de l'ONU contre 25 ans d'acquis en faveur des droits des femmes. En l'occurrence, la résolution pour la reconnaissance des victimes de violences sexuelles pendant les conflits a bien été votée par le Conseil de sécurité, mais elle a été amputée notamment d'un article sur le droit à l'avortement des femmes violées, intolérable et incompréhensible pour la France, comme pour les associations telles l'ONG We Are Not Weapons of War, nous ne sommes pas des armes de guerre. Sa présidente Céline Bardet, très en colère au téléphone de Valérie Crovard.
C'est gravissime. Évidemment que c'est honteux. Moi, je n'arrive même pas à réaliser qu'on soit à un stade où on est en train d'adopter une résolution sur la question des violences sexuelles dans les conflits et que cette résolution-là, qu'on ait deux États qui amputent totalement le droit de base des victimes et donc là, en l'occurrence, des femmes. Donc, bien sûr que c'est grave et bien sûr que la France a raison de hausser le ton et ce n'est pas la seule. Hein. Les Canadiens, ils ont été aussi extrêmement virulents par rapport à ça et je pense que c'est important aujourd'hui que les États européens prennent position, une vraie position publique de pression pour isoler les États-Unis et la Russie en l'occurrence, mais moi je crois particulièrement les États-Unis sur cette question-là. Et il faut qu'on comprenne que c'est une véritable question politique, c'est une véritable question de paix et de sécurité et qu'on ne peut pas, c'est un recul énorme en fait.
Un autre article rejeté par Washington, Moscou et Pékin prévoyait un mécanisme facilitant la poursuite en justice des auteurs de violences sexuelles. Au Sri Lanka, où le bilan des attentats du dimanche ne cesse de s'alourdir, 359 morts à ce jour, l'enquête progresse. Les attentats revendiqués par le groupe État islamique ont été commis par 9 kamikazes, dont une femme. Le chef du groupe se serait suicidé dans un hôtel de Colombo. Les autorités font état ce matin d'une soixantaine d'arrestations au total. Il ne fait aucun doute pour elles que ces attaques ciblées visant des hôtels et des églises était une réponse au massacre commis dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande le 15 mars. Ce qui laisse assez dubitatif les experts en terrorisme d'Asie du Sud-Est et d'Océanie. Expert qui a pu contacter notre correspondante dans la région, Karine Houten.
Les experts en terrorisme d'Asie et d'Océanie ont vu se multiplier les messages de haine de musulmans extrémistes sur les messageries sécurisées du type WhatsApp ou Telegram. Mais appeler à des attaques d'église ne date pas des attentats de Christchurch il y a juste 5 semaines. C'est en fait l'un des chevaux de bataille de Daesh, surtout depuis sa déroute il y a un an et sa dernière défaite en mars dernier. Paul Buchanan, du bureau d'analyse en sécurité 36 Parallels Assessments, basé en Nouvelle-Zélande.
C'est absurde d'affirmer que les attaques du dimanche de Pâques au Sri Lanka sont liées à Christchurch pour la bonne et simple raison que la planification et la préparation de ces attaques auraient pris des mois et non des semaines. Maintenant, Christchurch peut être utilisé comme excuse par l'État islamique qui cherche à montrer qu'il reste solide malgré sa défaite au Levant, mais aussi par le gouvernement sri-lankais dont l'échec des services secrets qui a permis ces attaques est incroyable.
Les experts sont unanimes. Les gouvernements asiatiques doivent renforcer leur vigilance maintenant que les combattants de Daesh rentrent chez eux, seuls, et s'attendre à plus d'attentats isolés. À Singapour, Karine Houghton, France Inter.
Et les États-Unis ce matin démentent avoir eu et transmis la moindre information sur ces projets d'attentats au gouvernement de Colombo.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Un manteau de pluie pour Notre-Dame. Plus d'une semaine après l'incendie, la cathédrale ne sera pas à nouveau arrosée avant que les orages annoncés n'arrivent, possiblement cet après-midi. Des travaux de bâchage ont été engagés, en commençant d'ailleurs par l'intérieur. Pour l'instant, une partie de la nef a déjà été bâchée. Tout devrait être terminé à l'intérieur après-demain, mais ce n'est pas si simple, comme l'explique à Sébastien Sabiron, l'architecte en chef des bâtiments historiques, Philippe Villeneuve.
C'est pas une simple bâche qu'on tend de mur à mur. Pour faire tenir cette bâche, il faut des poutrelles entre 12 et 15 mètres de long et il faut les soulever avec des grues gigantesques. Là, on a une petite interruption parce qu'on a eu beaucoup de vent là ce matin. Les voûtes sont sous observation quotidienne et permanente. On n'a pas noté de dégradation supplémentaire. C'est relativement stable. On pense franchement que bon, s'il pleut, ça sera pas dramatique du tout. À moins d'avoir une énorme grosse pluie battante qui remplisse les reins des voûtes, là, ça serait un peu pénible. Puis bon, bah, on est de toute façon dans la phase d'urgence et de sécurisation de l'édifice. Elle se terminera le jour où on aura posé le parapluie définitif qui va nous permettre de faire les travaux de construction. Ce sera une structure métallique qui empruntera la forme triangulaire de la toiture d'avant, qui sera recouverte d'une bâche imprimé représentant les toitures en plomb de la cathédrale avant incendie.
Alors, s'agissant des travaux, on le sait, ils sont déjà très largement financés par les dons de toute origine, arrivés à la Fondation du patrimoine, sans compter les donations déjà annoncées par de grands groupes ou de grandes fortunes. La Fondation du patrimoine a fait état de 163 millions collectés auprès des particuliers et surtout des entreprises pour 142 millions. Le gouvernement, qui veut lancer de son côté une souscription nationale, prépare une loi, dite loi Notre-Dame, qui modifiera la fiscalité relative aux dons. Adrien Toffolet, le Premier ministre, en avait d'ailleurs déjà indiqué les grandes lignes.
Effectivement, deux aspects du cadre légal doivent être précisés aujourd'hui. Le premier, c'est le coup de pouce fiscal. Alors, pas pour les entreprises, a priori. Pas de changement pour elles, avait précisé Édouard Philippe la semaine dernière, en pleine polémique des dons des grandes fortunes. Non, le Premier ministre veut soulager les particuliers qui donnent, notamment les plus modestes. Le gouvernement prépare donc une dérogation exceptionnelle à la loi Ayagon de 2003 qui encadre le mécénat culturel. Par exemple, pour un particulier comme vous, Yves, de façon générale, vous pouvez déduire 66% du montant d'un don de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de votre revenu imposé. Avec le dispositif Notre-Dame, entre 1 euro et 1000 euros de dons pour la cathédrale, la réduction d'impôt serait majorée à 75%. Au-delà de cette somme, par contre, elle resterait à 66%. Et puis le deuxième aspect du dispositif, c'est la transparence. Chaque euro versé à la reconstruction de Notre-Dame servira à ça et pas autre chose, avait prévenu Édouard Philippe. Un comité de gestion des dons doit être confirmé à cet effet lors du Conseil des ministres qui a lieu en ce moment même.
Du côté de l'enquête, de nombreuses hypothèses continuent de fleurir. Le Canard Enchaîné révèle ce matin que 7 mégots ont été retrouvés sur le site. Ce qui ne veut pas dire qu'un mégot ait provoqué l'incendie. Corinne Audouin, hein, d'ailleurs l'entreprise chargée de monter l'échafaudage, le dément.
Oui, l'entreprise, le bras frère dont nous avons joint le porte-parole, le reconnaît. Des ouvriers ont bien fumé sur l'échafaudage de Notre-Dame, malgré l'interdiction, parce qu'il fallait un quart d'heure pour descendre. Des libertés avec les règlements que nous regrettons, dit l'entreprise, mais qui se dit persuadée que malgré les mégots retrouvés sur l'échafaudage, cela n'a pas pu déclencher l'incendie. D'abord parce que le feu est parti de l'intérieur de la flèche. Ensuite, contrairement à un feu de broussaille par exemple, difficile d'imaginer, dit le responsable, qu'une cigarette mal éteinte puisse enflammer une charpente en bois. Côté judiciaire, on confirme ce matin que toutes les pistes accidentelles sont ouvertes. Une cigarette ou un court-circuit électrique, par exemple en provenance des deux ascenseurs qui desservent l'échafaudage. L'entreprise Le Bras explique que ces ascenseurs sont respectivement à 25 et 50 mètres du départ de feu et que les ouvriers, en quittant le chantier à 17h50, ont coupé l'électricité. Alors, autre entreprise présente sur le chantier, la société de surveillance Elitis. De sources judiciaires, on confirme ce matin que suite à la première alerte incendie à 18h20, l'employé du PC Sécurité a indiqué un endroit erroné, sans que l'on sache si l'erreur est informatique ou humaine. Selon nos informations, les responsables de la société Elitis était ce matin auditionné à nouveau par la brigade criminelle.
Corinne Audouin. Des saisies en forte hausse et surtout des produits de plus en plus forts, ce sont des chiffres inquiétants que révèle ce matin le bilan 2018 des services de lutte contre le trafic de drogue au pluriel. 115 tonnes de cannabis saisies en France, 31% de plus qu'en 2017, plus d'une tonne d'héroïne en hausse de 64%. Les saisies de cocaïne ont en revanche un peu diminué mais restent proches du record établi l'année dernière. Ce qui frappe surtout, c'est l'augmentation du nombre de faits constatés en hausse de 45% sur les 4 dernières années. Avec cet autre détail encore plus inquiétant, un taux de THC, la substance psychoactive du cannabis de plus en plus fort, une cocaïne de Colombie de plus en plus pure. Pour en parler, l'invité de ce journal est le docteur Amine Benyamina, chef du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est grave docteur, hein, le fait qu'un simple joint soit plus fort qu'avant? Est-ce que c'est grave ?
Ce n'est pas banal. Grave, le terme grave est dangereux et dangereux en lui-même. Ce n'est pas banal. Et ce qui est intéressant à savoir et ce qui frappe, c'est la multiplication du taux de THC classique et que nous avions il y a quelques années, qui est passé de 11%. Hein, c'est du moins Ce que, pour ma part, je continue à professer auprès de mes étudiants, on est passé à un taux moyen de THC à 25. On est sur quelque chose qui est extrêmement dosé. C'est ce qui très clairement constituait, dans notre jargon, des cas particuliers qui devient un cas réel et un cas classique.
Ça veut dire que les effets sont beaucoup plus violents, les effets et plus dangereux.
Les effets sont plus violents, plus importants. Ils peuvent être dangereux dans des cas précis. Et ce qui pose question, c'est que finalement, la France est une passoire, en quelque sorte, concernant les drogues, malgré la législation la plus répressive et la plus prohibitionniste qui soit. Donc on peut se poser la question sur l'adéquation actuelle des lois, de l'encadrement et le constat sur le terrain.
Oui, parce que la consommation aussi est en forte hausse.
La consommation augmente, les jeunes sont touchés, nous avons des typologies de consommateurs particuliers. Vous avez cité des drogues, les jeunes consomment toutes les drogues, les médicaments, l'alcool, du cannabis. Donc on est sur un constat d'échec face à des politiques qui à la fois sont des politiques de santé et de répression. Hein, voilà.
Au point que les trafiquants n'ont plus besoin de couper la drogue pour en tirer des bénéfices, ce qui explique ces produits de plus en plus forts.
Mais les trafiquants en France ont un intérêt extraordinaire. La plupart des pays autour de la France et dans le monde ont finalement régulé la question de la drogue. En France, on est sur le fantasme de la prohibition. Et le résultat, c'est qu'on a affaire à des jeunes de plus en plus ciblés, à des produits de plus en plus purifiés, à des taux de plus en plus élevés, parce qu'on a un vrai marché captif et un marché clandestin qui lui répond à la demande.
Alors, varier le taux de THC, c'est presque devenu obligatoire pour les trafiquants à cause de la concurrence qui s'exerce entre eux, si j'ose dire.
Il y a une concurrence qui s'exerce entre eux. Il y a à la fois du vrai marketing organisé, d'ailleurs vous avez couvert il y a quelques temps une tombola sur le cannabis, ne soyez pas étonnés, on est vrai sur des gens qui ont acquis finalement les coutumes et les règles du trafic international. Ensuite, lorsque le produit qui se vend classiquement à moins d'effet et moins appétant, on augmente pour pouvoir d'abord fidéliser la clientèle et en même temps engranger d'autres clientèles. Et on est sur une réalité, et on va passer un peu comme le bois fascine l'observateur, un phénomène qui devient très important, qui n'est plus du tout encadré par la législation. On le regarde et on le commente d'année en année.
Et plus c'est un cercle vicieux, parce que plus les produits sont forts, plus les produits sont purs, plus l'addiction est grande.
Plus l'addiction est grande et plus le risque est élevé. Évidemment, il y a une population qui doit nous alerter, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes parce que ils ont un cerveau en pleine maturation, parce qu'ils vont à l'école, ils ont besoin d'être concentrés, de travailler et d'éviter les risques. Ils ont des risques immédiats liés à des produits qui vont entraîner des phénomènes. Ils vont planer, ils vont être un peu plus euphoriques ou un peu plus sédatés. Donc on a un vrai problème. Et ensuite, c'est toute la problématique de la consommation chronique plus tard. Et ça ne se gère pas en disant « la drogue, c'est pas bien ». C'est comme si vous disiez que le feu, ça brûle et que l'eau, ça mouille. Et qu'on interdit le feu parce qu'on a peur de se brûler et on interdit l'eau parce que ça mouille.
Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous le disiez tout à l'heure.
Il faut réguler.
Toutes les campagnes de sensibilisation, toute la répression des trafics, ça sert à rien.
Il faut réguler, il faut sortir de ce fantasme de la loi de 70 concernant les drogues, notamment le cannabis, qui, parce qu'elle interdit, on arrive à gérer. Non, l'escalade policière et l'escalade répressive ne marchent pas.
Réguler, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, probablement, et ce n'est pas un gros mot, introduire une forme de légalisation pour pouvoir, de manière, par un delta, diminuer finalement l'importance des trafiquants sur nos jeunes. Ils ont une clientèle qui est captive. La meilleure façon de voler une voiture, c'est pas dans la rue, c'est dans un garage. Et on a nos jeunes installés dans un garage qui s'appelle la France. Et à côté de ça, essayer de faire des vraies campagnes à travers des outils que nous connaissons. Les jeunes ne regardent pas la télé, ils écoutent peut-être un tout petit peu la radio sur les applications.
De plus en plus France Inter, voilà, d'ailleurs.
De plus en plus France Inter. Première radio de France, il faut le rappeler, vous devez le faire.
Merci de le préciser.
Et donc, il est extrêmement important de pouvoir utiliser les outils de la modernité et sortir du fantasme de la prohibition qui protège. Au contraire, la prohibition expose.
Professeur Amine Benyamina, chef du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Merci beaucoup d'être venu dans ce journal. Allez, il est mort le jour de ses 74 ans. Le rocker à la banane, Dick Rivers, ex-leader des Chats Sauvages, est mort ce matin d'un cancer dans un hôpital parisien. Alors moins connu sans doute que Johnny ou Eddie. Il avait été quand même une figure importante du rock français dans les années 60, Jacqueline Pétrose.
Oui, chez les rockers, c'est le troisième mousquetaire. Dick a vendu moins de disques, certes, que Johnny ou Eddie, mais il avait tout comme eux le rock dans le sang. Né à Nice, dès 8 ans, il rêve de prendre le bateau pour l'Amérique. En 61, il connaît son premier succès avec les fameux Chats Sauvages et le tube Twist à Saint-Tropez. Vrai passionné, le rock n'avait pas de secret pour lui. Et plus encore que ses deux acolytes, il a vraiment été un pionnier pour Mishka Assayas.
Il était très érudit. C'est quelqu'un qui a travaillé avec les meilleurs musiciens de sa génération, mais dans plein de styles différents. C'est Martial Solal qui accompagnait Dick Rivers dans Twist à Saint-Tropez. Il a travaillé avec des musiciens anglais, Mick Jones, le guitariste qui a joué ensuite avec Johnny Hallyday. Il a travaillé avec Bachung. C'est extraordinaire de voir quel goût il avait. Il a été un des premiers Français à adapter les Beatles, également Buddy Holly. Et en fait, c'était pas que le rock'n'roll au sens strict du terme, c'était le blues, le folk, la country, enfin, il connaissait ça comme sa poche.
Les années 80-90 sont plus difficiles. Antoine Decaune, avec Didier Lambrouille, relance sa popularité. Dans les années 2000, Dick Rivers travaille avec Benjamin Biolay ou Mickey 3D. Il fait du cinéma avec Mocky, du théâtre à Chaillot avec les Paravents de Genet. Peu enclin à la nostalgie, il souffrait tout de même du manque de reconnaissance du métier, mais il n'avait rien perdu de sa passion.
Eh oui, ça le fait quand même, hein, Dick Rivers. Il chantait aussi « Toutes les filles ramassent mes chewing-gums » et ça a été toujours le rêve de ma vie. C'est leur huitième film ensemble. Catherine Deneuve est à l'affiche cette semaine du nouveau film d'André Téchiné. C'est le choix aujourd'hui de Corinne Pellissier. C'est votre choix, Corinne, l'adieu à la nuit. Film qui met en scène une grand-mère et son petit-fils en partance pour la Syrie. Sujet brûlant et difficile, évidemment, dont ça quitte fort bien le réalisateur.
Ou en tout cas loin des clichés, des stéréotypes et sans jamais rien perdre de son ADN ni des thèmes qui lui sont chers. C'est un film qui aborde un sujet, c'est vrai, très difficile, déjà beaucoup traité au cinéma depuis 2 ans, mais qui parle avant tout des sentiments, des paysages, des saisons, de la jeunesse, de ses tourments. Le portrait de cette grand-mère et de son petit-fils engagés dans un impossible bras de fer. 2 générations, 2 visions de la vie. Catherine Deneuve, les 2 pieds dans la terre, dans son ranch, prête à tout pour empêcher le garçon de partir car elle n'a plus que lui. Et face à elle, Cassie Motéclin dans le rôle du jeune Alex, endoctriné par sa copine, obsédé par l'idée de mourir au combat, mais dévasté à l'idée de mentir à sa grand-mère et de lui voler de l'argent pour financer son voyage.
Alors André Téchiné, pour ce film, c'est énormément documenté. Il a beaucoup travaillé à partir de témoignages d'anciens radicalisés ou de journalistes. L'ouvrage, par exemple, de David Thompson, « Les Français djihadistes ».
C'est un ouvrage, oui, qu'il avait beaucoup intrigué, dont il se demandait si l'on pourrait en traduire toute la substance au cinéma, raconter toutes les étapes de la radicalisation, les méthodes de recrutement, les contradictions parfois entre les actes et les idéaux. Les 2 jeunes que l'on suit dans le film, le petit-fils et son ami, joué par Oulaya Amamra, ont une approche presque romantique du djihad, un appartement de luxe à Raqqa, le rêve d'une vie meilleure après la mort. On a beaucoup de mal à les trouver détestables, on a même envie qu'ils s'en sortent un peu, qu'ils finissent même par trouver une autre raison de vivre dans ce monde qui ne leur convient pas. Et c'est toute l'ambiguïté du sujet qu'André Téchiné aborde ici de manière très sobre, très dépouillée. D'écrire, tout raconter, mais ne surtout pas juger.
Voilà, l'adieu à la nuit d'André Téchiné. À l'affiche aussi, on n'oublie pas dans la famille Marvel, les Avengers. Ceux qui aiment peuvent aller sur franceinter.fr pour voir 2 versions, dont une qui vous donne la fin, ce qui s'appelle spolier.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Des averses orageuses au menu, c'est agité et plus frais, Elodie Calac.
On trouve des éclaircies plutôt belles au sud de la Garonne jusqu'au Roussillon. Ailleurs, les nuages l'emportent avec des averses, parfois un orage, du vent. Le vent peut atteindre 110 km à l'heure sur les Pyrénées. C'est dans l'est que le temps est le plus perturbé avec des averses très nombreuses, d'abord entre la Côte d'Azur et les Alpes, puis en seconde partie d'après-midi sur le nord-est avec un risque d'orage fort et de la grêle. Le vent se renforce sur ces régions, 80 à 100 km à l'heure. Ce soir et demain, un cran au-dessus sur le centre-est, jusqu'à 110 km à l'heure en plaine, 130 sur le relief. Haute-Loire, Loire, Rhône, Isère sont en vigilance orange, prudence. Le thermomètre poursuit sa baisse avec 15 à 20 degrés cet après-midi, encore 22 à Metz et 25 à Strasbourg.